Pour de tawhid sur l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons reprendre notre cours là où nous l'avions laissé hier, concernant un sujet, hein, comme vous le savez, comme on le sait tous, qui touche beaucoup de gens et un sujet donc qui intéresse beaucoup les gens puisque touche beaucoup de gens. Et d'ailleurs on a vu dans les commentaires, hier on n'avait pas accès aux commentaires hein, directement, des témoignages de frères, etc. Barakallahu fiikum pour vos témoignages, qu'Allah vous raffermisse, qu'Allah vous guérisse tous. Amin. Alhamdulillah, Allah ibaraka, pour votre courage, votre patience. C'est Allah ibaraka, c'est vraiment du mérite. C'est vraiment du mérite. Comme on dit des fois, on a une expression qui dit, il y a des gens qui reviennent de loin. Il y a des gens qui reviennent de loin. Naham. Donc, ce sont des témoignages instructifs. Et comme il est demandé, il nous est demandé dans notre religion, c'est d'être utiles les uns les autres, d'être utiles les uns les autres. Et peut-être que souvent le shaitan nous fait tomber dans ce qu'on appelle le laxisme ou naam, le laxisme. Ce qui fait que on n'a pas le degré d'intensité qu'on devrait avoir concernant l'entraide. Concernant l'entraide. Il y a des textes qui disent, hadith qui disent, qui nous mentionnent l'importance, mais vraiment capitale, que celui qui va aider son frère toute une journée, il sera fi sabilillah toute la journée. Donc faut pas négliger ces choses-là, dans le sens où ceux qui ont des choses à apporter pour les musulmans, pour les aider dans ces épreuves, parce que certains sont passés par là, ils connaissent les techniques, ils ont certains profits à apporter, il faut pas hésiter à aider la communauté. De ce côté-là, faut pas aider, faut se préserver, bien entendu, attention, faut se préserver, mais faut pas hésiter à aider les gens lorsqu'on peut le faire, parce que ça peut être une porte, on le sait pas, hein. Ça peut être notre porte pour le paradis, en fait. Donc ne jamais sous-estimer le fait d'aider quelqu'un, le fait de même de sauver quelqu'un. On vous a déjà expliqué le récit d'une personne dans les réseaux sociaux justement qui était sûrement touchée par ce genre de mal occulte et qui demandait de l'aide ou qui en parlait comme ça. Qui disait sa situation difficile, etc. Et les gens passent comme ça et repassent sans prêter vraiment attention jusqu'à ce que cette personne tombe sur une personne qui l'a vraiment prise au sérieux, qui s'est dit, et sûrement cela vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car nous on ne croit pas au hasard. Et cette personne a pris soin de prendre le temps, de discuter, de lui apporter de lui apporter du soutien, du réconfort à travers des paroles douces, etc. Cette personne lui fait comprendre à la fin du discours, de l'échange, C'est comme si tu as été la cause pour me sauver la vie. Parce que moi, mon intention, c'était de mettre fin à cette vie. Donc vous voyez qu'il ne faut jamais rien prendre à la légère ou être dans le laxisme ou être... Vous savez, moi, des fois, on me pose des questions. Maintenant, ça va être moins. Maintenant, je vais me restreindre, malheureusement, uniquement à l'institut parce que, voilà, il n'y a plus de confiance. Les gens, ils enregistrent, etc. On ne sait plus qui est qui. Donc, maintenant, les questions-réponses, c'est fini. Wallahu a'lam. Mais il y avait des gens qui nous contactaient pour nous poser des questions. Et une des raisons pour lesquelles on répondait, c'était certainement pas pour montrer moi je connais ou je connais pas ou quoi que ce soit, c'était parce que on se disait peut-être que c'est très très important pour la personne, ça peut changer quelque chose dans sa vie, ça peut lui faire prendre un tournant, ça peut la sauver, ça peut... Une réponse comme ça, une réponse. Donc il ne faut pas hésiter à aider les autres. Alors malheureusement, ça c'est un des revers de la médaille, et ça c'est un revers de la médaille, et ça c'est une épreuve en quelque, un test, une épreuve, ce que vous voulez. C'est que dans le monde actuel, dans l'époque dans laquelle on vit, les gens rendent beaucoup le bien par le mal. Et normalement, ça devrait être le contraire. Normalement, ça devrait être dans l'islam, c'est le contraire. Quelqu'un qui te fait du khair, tu lui rends pas par le mal. Nous, toutes ces années, on a remarqué beaucoup que les gens, illa man rahimahullah, sauf très peu de gens, la majorité rendent le bien par le mal. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Donc, ce septième acte annulatoire de l'islam, on a parlé un petit peu hier de son importance, puisque plus une chose elle va nous toucher, on sera concerné par cette chose, plus elle deviendra importante à nos yeux. Ça, c'est comme ça qu'on doit réagir normalement. Plus une chose elle nous touche, et plus elle devient importante à nos yeux. Donc ces 10 actes annulatoires, étant donné que les ulama nous disent que ce sont les plus répandus, les plus dangereux, etc., donc on doit y prêter attention. Et on parlait hier justement de ce septième acte annulatoire qui est la sorcellerie, et on disait que justement, étant donné la proportion et la propagation de ce septième acte annulatoire, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se permettre d'être ignorant dans ce domaine. Et tout le temps d'essayer de s'en remettre aux autres, etc. On ne peut pas. Bon, déjà, on doit dans un premier temps s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais vraiment se faire une vraie forteresse, un vrai bouclier, faut avoir un minimum de connaissances. Pourquoi? Une des raisons, hein. Parce que, je vous donne un exemple. Le raqi, celui qui vous fera ruqya, ou le frère ou la sœur qui vous soutiennent, ils ne sont pas là 24 sur 24, 24 heures sur 24. Et les ouest-ouest, il n'y a pas de pointage, il n'y a pas d'horaire, c'est pas une entreprise. De 6 heures à 17 heures, les ouest-ouest, ça peut te prendre n'importe quand, même quand tu dors. Parce que les ulama disent les rêves se divisent en 3 catégories. Le rêve se divise en trois catégories. Le rêve pieux, le rêve du subconscient et le rêve qui est dû au shaitan. Donc même dans les rêves, et les gens ne sont pas là 24-24 avec toi pour pouvoir te soutenir ou te faire leur qiyam. Donc toi, tu dois avoir un minimum de connaissances et un maximum, je dirais même, de tawhid pour que toi-même tu sois capable, tu sois armé pour te défendre. Pour te défendre un maximum, mais en réalité un minimum maximum. C'est-à-dire qu'il y a une limite, tu ne dois pas être en dessous de cette limite. Quand il y a des waswas, par exemple, t'as personne à qui poser la question tout de suite, t'as pas... Toi, tu dois être armé toi-même, avec ton tawhid, avec ce que tu as appris, avec ce que tu apprends. Avec ta foi, avec ta force, ton tawhid. De dire, ça marche pas. Ça ne marche pas. De faire les invocations, ça, personne ne peut les faire pour toi. La salat, personne ne peut la faire pour nous. Le tawhid, personne ne peut l'avoir à notre place. Étudier, personne ne peut le faire à notre place. Donc on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses que... D'ailleurs, ça entre un peu dans le cadre de... dans le cadre légiféré du terme « mukallif », celui qui est responsable à charge, personne ne va le faire à ta place. Tu es responsable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des choses que personne ne les fera à ta place. Alors, c'est pas dans l'absolu, bien entendu. Hein. On va pas jouer avec les subtilités, les subdivisions, les différentes branches, etc. C'est pas dans l'absolu. Il y a des choses que les gens peuvent faire pour toi. Mais ça reste limité. Ça reste limité. Naham. Alors, on s'était arrêté. On avait expliqué, hein, très important, on avait expliqué hein, qu'il y avait des sectes dans l'islam qui disaient que la sorcellerie, c'est pas haqiqi. C'est pas réel. Wallahu al-musta'an. On avait dit les mu'tazila. On avait dit ceux qui leur ressemblent parmi les... qui les ont imités, parmi les gens de l'innovation, ça veut dire d'autres sectes, hein, et d'autres. Il y a même des awam. Des awam. Alors, excusez-moi. Vous voyez hein, qu'on oublie, hein, on oublie vraiment. On nous a posé une question, et je viens de m'en souvenir que maintenant. On m'avait posé deux questions. Pas de souci, Akhil Habib, Akhil Aziz, hein. Pas de souci, t'inquiète pas. On m'avait posé deux questions, j'ai répondu à une question, mais pas à l'autre. Justement, directement dans le sujet de ce qu'on est en train de dire. Pour les gens qui disent que... Alors je vais essayer de retrouver cette question rapidement. Sauf si la personne est capable de patienter vendredi. Si c'est une question privée. J'espère que ce n'est pas une question privée. Je vais la regarder rapidement. Assalamu alaikum. Une personne qui est atteinte par des maux occultes depuis des années et que son entourage ne la prend pas au sérieux. Dit qu'elle ment, qu'elle fait exprès ou la prend tout simplement comme une personne déséquilibrée, etc. Comment doit-elle réagir? Faut-elle qu'elle continue à se justifier auprès d'eux? Alors, si ce sont des gens que vous pensez que ces gens-là, en leur apportant des preuves solides, ils peuvent changer d'avis et que ce sont vraiment des proches, des proches, le papa, la maman, les frères, chez qui elle vit dans la maison. Wallahu a'lam, moi, je vois qu'il y a un intérêt à ce qu'ils prennent vraiment ça au sérieux. Parce que ça sera plus adéquat pour l'aider. Pour l'aider, pour soutenir la personne. Mais si tu n'y crois pas, comment tu vas soutenir? Tu vas dire, oh, elle, c'est... Non, la personne a besoin de soutien familial, etc. Donc dans ce contexte-là, ce sont des gens qu'on peut... On peut les... Comme on peut leur faire da'wa, par exemple, comme les ulama, ils disent. Tu peux fréquenter une personne, essayer de la convaincre si tu sais que la da'wa, elle peut passer. À partir du moment où tu sais que tu as les preuves, c'est une personne qui n'accepte pas et ça passera pas. Merci, au revoir. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Merci, au revoir. Donc là, c'est pareil. Alors, on ne dit pas merci, au revoir à la famille proche, mais on ne leur parlera plus de ça et on prend sur nous-mêmes et on demande le soutien d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est suffisant. Si ce sont des gens d'entourage, on peut pratiquer la même règle. Essayer de les convaincre vraiment avec sagesse, des preuves, leur amener des gens qui connaissent vraiment bien, qui sont capables d'expliquer. Si c'est de la famille vraiment, vraiment proche, hein, le père, la mère, etc., nous, en ce qui nous concerne, moi, en ce qui me concerne, je suis prêt à faire un audio où on explique, où on essaye d'argumenter pour aider la personne qui a posé la question. Si c'est des copains, des copines, des gens comme ça, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps parce que si c'est juste histoire de les convaincre, mais une fois qu'ils vont être convaincus, ils vont pas vous aider, ils vont pas vous soutenir, quoi que ce soit. C'est juste une histoire de regardez, c'est moi qui ai raison ou quoi, ou c'est pas toi qui a. Dans ce cas-là, non, il vaut mieux pas. Dans ce cas-là, non, il ne vaut mieux pas. Naham. Taïb. Taïb. Alors. Alors, excusez-moi les frères, Wallah al-Musta'an, je viens de voir que maintenant vos questions par rapport au cours précédent. Assalamu alaikum, vous aviez vu le maître sur les loges en arabe et en français, puis expliquer détail la phrase. D'accord, hein, on s'est arrêté ça. Hein. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, wa alaikum salam, amin. Bikhair, leka wa usratika, naham, naham bikhair, narju. Oustaz, désolé, j'ai une question pour ce qui est du jarh ou ta'dil. C'est dans le contexte du hadith, mais comme on dit, c'est valable jusqu'à Yom al-Qiyamah. Tout à fait. Tout à fait. Je sais qu'on a déjà répondu à ça, mais j'ai oublié la réponse. Est-ce que le jarh ou ta'dil est que pour le hadith ou il est aussi valable pour le fulen et fulen? Le jarh ou ta'dil, Akhil Fadil, Cheikh Abdallah, il est valable pour fulen fulen aussi. Oui, c'est valable aussi pour aujourd'hui, les ulamas, les étudiants, c'est les mêmes règles. Non, ne soyez pas désolés pour cet exemple, ça reste mieux ancré dans les esprits de citer des exemples concrets de ce qu'on apprend. Barakallahu fik, papa. Wa alaykas salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Ziyad. Wa alaykum salam, Cheikh Nordin, Cheikh Hakim, hayakumullah. Wa fik barakallah, Cheikh Abdallah. Tayyib. Apparemment, il y avait une question d'une étudiante. Là, c'est juste parce que j'ai ouvert la méconnue, peut-être mauvais œil. Oui, Cheikh Ziyed. Est-ce qu'une maladie méconnue peut être le mauvais œil? Oui, absolument. Justement, encore plus. Parce que, wallahu a'lam, les choses que les scientifiques, en général, hein, les choses que les scientifiques ne peuvent pas expliquer, d'ailleurs, même des choses qui peuvent expliquer, hein, le cancer, les ulama ont dit que la plupart des cancers, c'est l'urine. Hein. C'est le mauvais œil. Hein. Mais les choses que les ulama ne peuvent pas expliquer, oui, il y a des grandes, grandes, grandes chances. Alors, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas mieux que les exemples pour. Je vais vous mettre en situation. Je vais vous mettre en situation. Et Cheikh Ziyad, je vais te donner un exemple et tu vas voir. Je vais te donner un exemple. Alors d'abord, je lis, il y avait une question. Salam alaikum, professeur, c'est moi qui ai posé la question. Wa alaikum salam, hayakum Allah. Il s'agit de ma maman et c'est ses sœurs qui la croient pas. Donc mes tantes, c'est pour là. Hier, je vous ai demandé si on pouvait. Si vous vous demandez si on pouvait couper les liens de parenté, car je fais des histoires. Barakallahu fikoum, en tout cas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Couper le lien de parenté, faut éviter, mais vous n'êtes pas obligé de vous rencontrer, de un SMS ou alors vous répondez au Salem. Vous pouvez couper uniquement si vraiment, 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 vraiment ça dépasse les limites. Moi, j'avais vu les ulama, ils disaient c'est la maman a fait du sihr, les tantes elles font du sihr, tout ça et tout. Là, oui. Wallahu alam, moi j'avais vu ça, des ulama. Mais là, Allahu alam, si c'est pour des histoires, bon, les gens nuisibles en général, on les évite. Mais essayez quand même de garder. Salam alaikum, alaikum salam, ça va, ouais, ok, merci, au revoir. Taïb. Alors, un exemple pour notre frère. Il est déjà arrivé, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont, wafikum barakallah, beaucoup de gens qui sont atteints ou de mal occulte, ou de mauvais œil, qui ont fini à l'hôpital. Ils ont fait de... Ils peuvent même... des témoignages, je pense que ça manque pas. Moi, j'ai eu des propres témoignages de personnes qui ont eu des... qui ont fini à l'hôpital, des crises, grosses crises d'angoisse, ou alors des crises de trucs occultes, de... Je sais pas comment on appelle ça dans le milieu, des crises de genoun, ou hein, des crises de folie, des crises de... Vous m'excusez si je n'emploie pas les bons termes, ça finit à l'hôpital. À l'hôpital, ils vont te faire... Écoutez bien, c'est pas du blabla. Ils vont te faire kulli shay. Ils vont te faire un check-up entier, prise de sang, urine, tout ce que tu veux, électrocardiogramme, tension, kulli. Ils vont te faire truc du cerveau. Façon de parler, hein. À la fin, ils vont te dire, non, vous avez rien. Toi, c'est inconcevable qu'on te dise que tu as rien. Parce que des fois, une crise d'angoisse, les spécialistes, ils disent, ça te fait l'effet comme une crise cardiaque ou un truc comme ça, mais en réalité, c'est pas du tout la même gravité. C'est une simulation, t'as l'impression que tu vas mourir, mais en réalité, tu n'es pas en train de mourir. Et toi, va dire à quelqu'un comme ça, non, non, t'as rien, Harry. T'as rien du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour répondre à la question, qu'il y a des maladies qui ont des gros symptômes, mais qui ne sont pas forcément dangereuses ou mortelles ou quoi que ce soit, où les médecins, ils te disent t'as rien du tout. Et en réalité, dans l'islam, on sait ce que c'est. On a les remèdes. On a les remèdes. Eux, ils vont juste te dire, repose-toi, prends des vitamines C, mange des carottes, je ne sais pas. Hein. En réalité, ils vont plus te dire, te bourrer de cachets et tu vas finir mort-vivant. Excusez-moi du terme. Hein. Wallahul musta'an. Taïb. Donc, le fait de prétendre que la sorcellerie n'est pas réelle, c'est complètement faux. Et ça contredit complètement le kitabi wa sunna de dire que... Donc laissez-les, les gens qui pensent ça, faut les laisser. On ne le souhaite pas, on ne leur souhaite pas que ça arrive, mais si ça leur arrive, ils vont bien comprendre. Ils vont bien goûter, ils vont bien comprendre, et là, ils vont arrêter de... On leur souhaite pas ça, on le souhaite à personne. Mais Wallahul musta'an. Savez, des fois la bêtise des gens ne mérite pas qu'on s'arrête à celle-ci. Retenez bien cette phrase, hein. Retenez bien. Ça, c'est un genre de réplique. Même dans la religion, prenez-le, hein. La bêtise des gens ne mérite pas qu'on s'arrête sur celle-ci. C'est pour ça que vous voyez des ulamas, des étudiants, ils répondent même pas. Ils vont répondre une fois et puis après ils vont dire oh, la bêtise des gens ne mérite pas que l'on s'arrête dessus. Taïb. Alors, عن محبة زوجته إلى بغضها. Donc on avait expliqué ce qu'était le sarf ou l'atf. C'était la sorcellerie tantôt qui désunit les gens, et la sorcellerie qui est sarf ou l'atf, la sorcellerie qui unit les gens. Nahum, on avait expliqué ça. Donc créer ce sentiment ou de haine dans le cœur ou d'amour dans le cœur. Assalamu alaikum, les gens peuvent très bien dire aussi, si j'y crois. Si, si, j'y crois, mais toi, ton cas n'est pas de la sorcellerie. Oui, ils peuvent dire ça. Alors ça, c'est une bonne faïda, pourquoi? Alors ça, c'est une bonne faïda, pourquoi? Là, il y a une faïda pour les étudiants très importante. Les savants ont mentionné qu'il y avait beaucoup de gens, ils se sont... Attention, on ne dit pas que pour la sœur, c'est ça. On dit pour personne de l'institut, on a dit que c'était ça. Attention. Moi, je vous dis, il y a une étudiante, Allah Ibarak, des Allahu Khair, qui nous a mentionné quelque chose dont on a omis de mentionner. Franchement, c'est bien d'en parler. Elle nous a fait ça nous a fait rappeler, c'est que, attention, les savants ont parlé de beaucoup de cas de gens. Comment dire? Ça leur est tellement monté à la tête qu'ils se croient majnoun. Ils se croient touchés, en fait ils ont rien, c'est psychologique. Alors attention, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. N'allez pas dire à quelqu'un qui est vraiment atteint, et on va pas, on n'est pas ici pour donner un cours, on n'est pas ici pour donner un cours quels sont les symptômes, quels sont pas les symptômes, mais il y a des symptômes, on voit très bien que c'est pas psychologique. Hein. Quand la personne elle change de voix, etc., c'est pas psychologique. Hein. Wallahu a'lam. Donc voilà, on a connu des cas comme ça, où oui, c'est vrai, il y a des gens, même je ne sais pas si l'étudiante elle parlait de ça, mais nous, ça nous a fait rappeler ça. Oui, il y a des gens qui diront, si, si, j'y crois, mais toi, ton cas... Non. Bah en fait, parce que... Alors, il y a ceux qui le disent en reniant la sorcellerie, ça c'est une erreur. Et il y a ceux qui le disent parce que c'est vrai, il y a des gens pour chez eux, c'est psychologique. Ils se sont inventés un cas comme quoi ils sont malades et tout. J'aimerais savoir comment faire. Peut-on pour savoir si l'on est touché par le mauvais œil ou bien que c'est une épreuve d'Allah, bien que les mauvais œils aient aussi une épreuve d'Allah, bien sûr, je parle pour moi car on me dit que je suis touché par la sorcellerie. Mauvais œil, alors je ne pense pas, je pense plutôt que ce sont les épreuves d'Allah. On m'a aussi conseillé que la première cause de guérison de la sorcellerie mauvaise ou l'acceptation que l'on soit touché par cela. En fait, si tu veux ça, dans tous les cas, bien sûr que c'est une épreuve. Exactement que c'est une épreuve. Mais pour savoir si on est touché par ça, faut faire ruqya. Et là, le raqi va te dire si tu es touché ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors il va te demander des questions, qu'il t'est arrivé ceci par rapport à cela, etc. Subhanallah, akhi. Oui, hein. Bien sûr, l'ain, akhi. Cheikh, l'ain. Naham. S'ils trouvent pas tout ça et tout, cherche pas. Ils comprennent pas, ils trouvent pas, cherche pas. Wallahul musta'an. Nas'alallah yashfik. Nas'alallah yashfik. Wa yashfi jami' amrad al-muslimin. Wa at-tullab fi al-markaz, fi markazina. Nas'alallah yashfi jami' المستمعين وجميع الطلاب آمين والله المستعان وفيك بارك الله وفيك بارك الله juste on va commencer notre cours juste pour te dire justement si tu fais les bonnes causes etc tu peux guérir du jour au lendemain biiznillahu ta'ala tu peux guérir du jour au lendemain والله المستعان les gens sont tellement méchants et jaloux que la plupart du temps, les médecins dirigent vers un psychologue étant donné que il n'y a rien d'organique. Oui, voilà. Voilà. Exactement. Écoutez, si vous dites à un médecin, si vous dites à l'hôpital ou au docteur ou quoi que ce soit, vous lui dites et il y en a qui vont comprendre quand je dis ça. Quand je dors, je vois des animaux, des scorpions, des serpents. Même en étant éveillé, je vois des nœuds qui se promènent. Je vois des dragons, je vois des. Si vous dites ça à des docteurs, ils vont vous envoyer vers un psychiatre. Alors que si vous allez voir un vrai raqi, il va te dire tout de suite, parce qu'il y a les signes du mauvais œil et il y a les signes de la sorcellerie. Et lui, c'est un spécialiste. Oui, Naham, qu'Allah te guérisse, Akhi. Je l'ai vu ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus. Qu'Allah te guérisse, Akhi. Wallahul musta'an. Même des médecins musulmans n'adhèrent pas trop. Oui, parce que il est musulman, il est musulman, il est médecin, mais Aqida, c'est pas ça. Aqida, c'est pas ça. Est-ce que vous avez un nom de médecin spécialiste, psychologue musulman? Pour le moment, non. En tête, non, mais si je me souviens, je te communiquerai ça, Inch'Allah. Naham, quand il n'y a pas de symptômes, tout ça et tout, faut se poser la question, in, tout ça là. Naham, on va commencer le cours, d'accord, Inch'Allah. Taïb. Je me fais disputer en, en coulisses. Ouais, les gens sont méchants, Wallah, comment dire, là. Dans la communauté et dans la Jamara, il y a beaucoup de cruauté. Les gens sont cruels. Taïb. Alors, on avait cité les deux formes. Le cheikh, il nous cite les deux formes de sorcellerie. Al-atf ou al-sarf. Mettre l'amour dans le cœur, mettre la haine dans le cœur, séparer, unir les gens. Bien entendu, ça, regardez ce qu'on nous dit. Tout ça se fait par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'en réalité, il faut toujours revenir au tawhid. Parce que celui entre les mains de qui tout peut basculer, ou tout, tu peux guérir, ou tu peux être malade, ou quoi, c'est le tawhid, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. S'ils y sont arrivés, c'est par sa permission. Alors, on a déjà expliqué hier, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour le prophète lui-même. Il a été touché par ça. Alayhi salatu wa salam. Donc on nous dit, concernant le fait que c'est la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset, Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Traduction rapprochée du verset, ils ne pourront être nuisibles envers qui que ce soit que par l'autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, reviens au tawhid. Demande à Allah. Ne désespère pas. Ne désespérez pas de demander à Allah dans toutes vos invocations. Et excusez-moi de cette expression. C'est mon expression. Elle est en conformité avec le Kitab wa Sunna, mais je ne l'ai jamais entendue comme ça. Donc ça vient de moi. Faisons des invocations intelligentes. C'est quoi, moi, que j'appelle l'invocation intelligente? Bon, toute invocation est bonne, hein. L'invocation intelligente choisit les moments, choisit invocation intelligente, j'appelle ça, choisit le moment où c'est le plus propice à être exaucé. Troisième tiers de la nuit, avant le Fajr, pendant que tu es en voyage, quand tu es malade, etc., etc. Soyons intelligents, on va le dire plutôt comme ça, soyons intelligents dans les invocations. Oui, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il autorise ça, c'est un bien pour la personne. C'est un bien pour la personne. On a écouté justement aujourd'hui ou hier un dars de Cheikh Abdelrazak Al-Badr où il parlait de ça. Il a même parlé de la femme qui était venue voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui lui avait demandé, voilà, moi j'ai ça. Il lui a dit, si tu veux, je fais une invocation pour te soulager. Sinon, si tu patientes, c'est le paradis. Elle a dit, je patiente et c'est le paradis. C'est un bien. Ça expie les péchés. Pour arriver le jour de la résurrection, Inch'Allah, purifié. Même si elle a du mal à faire ses obligations, etc., à cause de ça. Justement, c'est pas volontaire de ne pas faire bien. La personne n'est pas comptée lorsqu'elle est gênée, c'est la maladie qui l'empêche, etc. Faites au maximum, craignez Allah comme vous le pouvez. Vous savez, les savants disent, ça c'est une grosse faïda, avis aux amateurs de faïda, de fawaïd. Les savants disent, si tu as craint Allah correctement, ça veut dire tu as obéi à Allah selon ta capacité, malgré que tu as des empêchements, tu as des ta'arrud, on appelle ta'arrud, c'est ton nefs dit oh, j'ai pas envie, oh, ou alors tu peux pas, pour les causes que vous venez de nous citer ici, de sorcellerie ou autre. Eh ben, si toi, tu as craint Allah comme tu peux, tu fais ton maximum, tu seras compté comme si tu as fait la chose entièrement. Et wallahu a'lam, tu auras plus de récompenses pour tes efforts, pour... Ça, c'est Cheikh Abdelazak al-Badr qui dit ta'arrud. Lorsque tu as ce genre de réticence, oh, j'ai pas envie de me lever, oh, j'ai pas envie d'y aller, oh, j'ai pas envie de faire ça. Concernant les obligations, les ordres d'Allah et les interdits d'Allah. Eh bien, si tu le fais, Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit ta double récompense. Tu es récompensé parce que non seulement tu as fait l'obligation, mais en plus, tu as vaincu ce ta'arrud. On appelle ça ta'arrud. Oh, il fait froid, j'ai pas envie de me lever pour aller au Fajr. Hein? Donc voilà, l'islam, il est juste. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne intention. Et la bonne intention et l'intention de vouloir faire je veux, mais je ne peux pas. Celui qui veut, mais qui ne peut pas ou qui n'arrive pas entièrement, c'est pas comme celui qui est laxiste. Hein? C'est pas pareil. Hein? Donc ensuite le cheikh il nous dit le sihr, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est interdit, c'est illicite. Dans toutes les législations de tous les messagers, dans toutes les législations de tous les messagers. Alors faites attention, on a expliqué précédemment, et le cheikh il nous l'a redit ici, c'est que on a le cas de celui qui fait la sorcellerie qui a mécru. Il n'est pas musulman. Mais attention, on a le cas de celui qui ne fait pas de sorcellerie, mais il agrée. Là, il accepte, il agrée la sorcellerie. Lui aussi, il est mécréant. Attention. Attention. Wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Et nous n'avons pas enseigné à qui que ce soit sans lui dire, attention, nous sommes une tentation, un trouble, un fitna, ne m'y crois pas. Alors ça, on ne va pas expliquer ça. Peut-être qu'on expliquera ce verset dans un autre cours, dans un autre contexte, parce que c'est, il y a tout un contexte avant, après, c'est compliqué, il faut parler des deux, de Harout et Wamarout, des anges qui a enseigné la sorcellerie, comment c'est possible, etc. On n'a pas le temps là de parler de ça. Ça, c'est le contexte du verset. Hein. Contexte du verset. Fadallat hadhihi al-ayat ala kufr al-sahir. Donc ce verset, Sourate al-Baqarah, nous indique que le sorcier, il est mécréant. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة. Donc ça c'est l'école de l'imam Ahmed, de l'imam Malik et de l'imam Abi Hanifa, ce qui fait que c'est la parole de la majorité, vous allez comprendre à la suite. Tandis que l'imam Shafi'i a dit, l'imam Shafi'i lui dit, le sorcier, lorsqu'il a appris la sorcellerie, on lui dit, montre-nous c'est quoi ta sorcellerie. Si cette sorcellerie, elle nécessite de la mécréance, par exemple, comme, c'est important ça, il y a une divergence entre les savants. Je vais vous expliquer après, là je serai obligé de vous donner un petit détail. Si cette sorcellerie, elle contient de la mécréance, comme le fait de se rapprocher des étoiles, si cette sorcellerie, elle contient des sortes de mécréances qui dépassent les limites de la mécréance, par exemple, comme le fait de rendre des choses haram, halal, ou alors de demander aux djinns l'aide. On sait que les djinns, eux, ils ont un cahier des charges. C'est quoi ce cahier des charges? Pour travailler avec eux, ils ont des règles. Tu dois faire de la mécréance et du polythéisme, égorger pour eux, rentrer avec le Coran dans les toilettes, plein de choses qui rendent la personne mécréante. Donc lui, l'imam Shafi'i, il dit d'abord, on voit sa magie, sa sorcellerie. Si sa sorcellerie, elle, contient de la mécréance, on dira qu'il est mécréant. Si elle ne contient pas de mécréance, on ne dira pas que c'est un mécréant. Par exemple, selon l'avis de l'imam Shafi'i ici, si on a une personne qui fait des tours de magie, il fait disparaître des œufs avec une baguette magique, etc. Moi, je dirais plutôt une baguette pas magique. Une baguette pas magique, on ne dira pas que c'est de la sorcellerie. Mais attention, attention, ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Et on a dit que la majorité des savants, ils disent le contraire. Donc on a expliqué, nous à l'Institut, pour l'instant, on est en première année, on prend la majorité des savants. Et vous avez Sheikh Al-Fawzan, c'est pour ça que Sheikh Al-Fawzan, dans son explication de Kitab Tawhid, il dit, toute forme de sorcellerie, c'est de la mécréance. Il cherche pas à comprendre. Et ça, c'est la majorité des savants. Alors, il y a des preuves hein, sur ça. Attention, il y a des preuves. Hein. J'ai un peu oublié, mais on le verra dans Kitab al-Tawhid. Je sais qu'il y a un hadith ou un athar, j'ai oublié, d'un compagnon où il y avait une personne, je crois que c'est Omar, j'ai oublié. Hein. Omar ou Abou Bakar, j'ai oublié, je crois que c'est Omar. Où il y avait une personne, il n'avait pas fait de la mécréance, hein. Il faisait de la magie, il faisait disparaître des choses. De l'illusionnisme. Ce compagnon, il l'a fait exécuter. Il l'a fait exécuter. Il n'a pas cherché ses mécréances ceci, ses mécréances cela. Tu fais de la magie, exécution. Donc il y a un tafsir, il y a un détail sur ça. Parce que peut-être qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Wallahu a'lam. On verra ça dans Kitab al-Tawhid, inshallah. Alors ici, notre cheikh, il nous dit Wa raji' ala hadhihi al-mas'ala nahwaha wa nahwiha mimma yata'allaq. Donc, le cheikh ici nous dit, revenez en ce qui concerne la question de la sorcellerie, du fait de tuer le sorcier, dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Vous voyez comme on vous a dit nous. Hein. Le livre de l'unicité, c'est vraiment la référence dans ce domaine. Lui, il nous dit, le cheikh, bah, c'est vrai que c'est un des meilleurs Fath al-Majid. Hein. C'est un des meilleurs Fath al-Majid. Explication de Kitab Tawhid du Sheikh Al-Imam Abdel Rahman Ibn Hassan Ibn Sheikh Al-Islam, rahimahullah, du petit-fils de Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab. C'est lui qui a fait l'explication de son grand-père, Naham. Et il l'a appelé Fath al-Majid. Et le Sheikh ici nous dit, il est super. Il est super, il est très profitable, Fathul Majid. Et ben justement, hein, et ben justement, nous, celui qu'on va faire avec Shir Saleh al-Sheikh, qu'on a en trois volumes ici, à la suite qu'on fera, c'est Fathul Majid. C'est l'explication de Fathul Majid. Aou, pardon, Al-Majid, Majid, tellement habitué à dire Al-Masjid. Non, c'est Fathul Majid. نعم. والمقصود هنا أن الصيح ناقض من نواقض الإسلام. Ce qui est voulu ici par la sorcellerie, c'est l'acte annulatoire parmi les actes annulatoires de l'islam. C'est-à-dire la sorcellerie vraiment qui demande du kufr, de la mécréance. Et celui qui l'a fait, il est mécréant, et celui qui l'agrée, il sera mécréant également. Donc, Inch'Allah ou Ta'ala, on a dit que c'était dans notre ouvrage ici, les 10 actes annulatoires, parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans les 10 actes annulatoires, l'ouvrage. Il faut bien comprendre, nous ici, on n'est pas dans les 10 actes annulatoires, l'ouvrage. Un ouvrage indépendant sur les 10 actes annulatoires de l'islam. Nous sommes dans Al-Wajibat al-Mutahattimat, et dans Al-Wajibat al-Mutahattimat, il y a un chapitre, les 10 actes annulatoires de l'islam. Donc, il y a plein de petits chapitres de questions importantes dans le tawhid, fondamentales, dans la foi et le tawhid, et on fait des petits résumés comme ça. C'est très moufide hein, pour des débutants. Après, on va les voir en détail dans les autres livres, mais on aura déjà une base. Vous comprenez? C'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est court. L'explication, elle est courte. Mais on essaye de faire en sorte que ce soit moufide, profitable, même si c'est court. Parce que dans les prochains livres, là, ça sera pas... on va expliquer le septième point, la sorcellerie. Là, ça sera chapitre de la sorcellerie. Et là, ça sera autre chose. Wallahu a'lam. On essaiera de faire en sorte que ça soit vraiment complet. Naham. Bien que là, on a compris quand même... Donc, pour vous dire, voilà, tout ça pour vous dire que ce septième acte annulatoire de l'islam, on l'a terminé. Dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala, on verra, on entrera dans le huitième acte annulatoire, Muzaharat al-Mushrikin. Donc ça, c'est aimer, se mettre du côté des Mushrikin, hein, des associateurs, les aider contre les musulmans. Contre les musulmans. On expliquera ça. Donc ça, si ça fait partie des actes annulatoires, c'est également parce que il y a beaucoup de musulmans, hein, malgré qu'ils disent la ilaha illallah, ils vont combattre les musulmans aux côtés des mécréants, malheureusement. Donc voilà, c'est un, on dit musulmans, mais c'est un acte annulatoire. Donc voilà. Tayyib, barakallahu fiikum. On se donne. Les djinns qui travaillent avec les sorciers seront-ils eux aussi jugés? Bien sûr. Wafikum barakallah, hayakumullah. Bien sûr. Les hommes et les djinns, ils seront jugés pour le bien et le mal qu'ils ont commis. Et les djinns qui ont les shayatines iront en enfer avec leur shayr, le shaytan. Attention. Ce n'est pas que les êtres humains qui font du bien qui vont au paradis, qui font du mal qui vont au paradis. Les djinns qui font du bien iront au paradis, les djinns qui font du mal iront en enfer. Naham. Il y a des djinns musulmans, des djinns gentils, des djinns méchants, des... Ah, c'est clair, hein? Wallahu al-musta'an. La preuve, c'est que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. S'ils doivent adorer Allah, les djinns, au même titre que les humains, c'est qu'ils ont des comptes, Allahu a'lam, c'est qu'ils auront des comptes à rendre. Est-ce que les djinns musulmans peuvent habiter un corps? Ils le peuvent, mais ils n'ont pas le droit. C'est interdit. Ils le peuvent parce que, wallahu a'lam, du peu de connaissances que j'ai, c'est les djinns, c'est quoi? C'est une sorte de, si on peut dire ça comme ça, de fumée. C'est comme un gaz. Ils sont, ils entrent facilement chez l'être humain et comment on dit, ils se propagent dans le sang. Et alors ça, pourquoi causer du tort? Il y a le bien, il y a le mal. Le mal, il a été fait en condition par Allah Ta'ala a créé le mal pour un bien, une sagesse de sa part. On n'est pas forcément, nous, habilités à la comprendre, mais c'est un bien. C'est un bien. Musulmans, ils peuvent. Nous, on a connu des gens qui étaient habités par djinns musulmans. On a connu une personne comme ça, habitée par un djinn musulman. Alors à la base, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais voilà, hein. Nous aussi, on n'a pas le droit de faire certaines choses en tant que musulmans et on les fait quand même, hein. Wallahul musta'an. Pourquoi causer du tort? Ça, c'est une bonne question. Ils sont, si j'ai compris, musulmans transgresseurs. Apparemment, Allahu a'lam, mais apparemment, oui. Apparemment. Parce qu'on sait que les djinns n'ont pas le droit d'habiter les humains. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Wallahu a'lam. Après, plus de détails sur ça, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Ulama. Est-ce qu'en cas de Darura, ils auraient le droit? Ou est-ce que pour sauver une personne? Ou je ne sais quoi? Wallahu a'lam. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'en général, et je vais revérifier, hein, et je vous dirai ça vendredi dans les questions-réponses, Inch'Allah ta'ala, est-ce que. Essayer d'apporter les preuves qu'ils n'ont pas le droit, etc. Mais de ce que je me souviens, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Personne n'a envie d'être habité. Hein. Personne n'a envie. Hein. Gentil, pas gentil, musulman, pas musulman, aucun être humain n'a envie d'être habité. Hein. Wallahu alam. Hein. Subhanakallahumma wa ma bihamdik. On va regarder les frères rapidement. On va regarder s'il y a des questions de frères rapidement. À la kulli hal, ceux qui sont pressés ou. Les questions ne les s'intéressent pas trop ou quoi. Inch'Allah, vous pouvez quitter le cours, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous conseillez le livre Les maladies psychologiques de Dr. Mohamed Mouloud pour distinguer ce qui est sorcellerie et ce qui ne l'est pas? Alors, quelque chose de très important, mon frère, papa, Hayakallah, quelque chose de très important, c'est que. La psychologie chez les savants de la Sunna, il y a psychologie et psychologie. Les savants disent la science de la psychologie, elle est, si elle est en conformité avec le Kitab ou la Sunna, il n'y a pas de souci. Mais il est connu que la science de la psychologie, les savants, ils l'ont blâmé parce que ça amène plein d'ambiguïté. Il faut que la personne qui entre dans ce domaine, elle soit déjà calée dans le Kitab et la Sunna. Parce que ça amène à plein d'ambiguïté la science de la psychologie. Alors quand vous voyez des docteurs musulmans en psychologie, s'ils n'étaient pas calés dans le Kitab et la Sunna, ça veut dire qu'il a une licence ou qu'il a un doctorat. Et qu'ensuite il fait un doctorat en psychologie ou il fait des études de psychologie, peut-être. Mais sinon, les savants disent non parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de choses qui contredisent le Kitab et la Sunna. Et ça, faut faire attention. Donc, maintenant, pour répondre, après ce petit éclaircissement, pour qu'on comprenne notre réponse. Le docteur, là, on ne le connaît. Moi, je ne le connais pas. Il faut vraiment qu'il ait une aqida des gens de la Sunna. Moi, je ne le connais pas, je ne peux pas affirmer. Mais en tout cas, il faut se baser et imiter les salafs et les gens de la Sunna. On n'a pas de savants qui font ce genre de ouvrage ou alors qui s'intéressent à cette science. Moi, je mentionne quelquefois des fawaïd parce que c'est important. Wafik barakallah. Wafik barakallah. Oui, abstenez-vous. Franchement, abstiens-toi, akhi. Abstiens-toi, wafik barakallah. Tu ne sais pas si quelqu'un il a une aqida des gens de la sunna. Tu ne peux pas prendre un livre comme ça et. Surtout lui, son. Excusez-moi du terme. Son rôle, c'est de parler des esprits, de la manipulation des esprits, etc. Donc s'il ne fait pas partie des gens de la Sunna, il va te lobotomiser. J'ai deux questions à Oustad, d'accord? Comment reconnaître un bon d'un mauvais comportement dans nos actes quotidiens? Comment reconnaître que telle chose est bien ou mal? Alors ça déjà, il faut prendre des cours. Et apprendre la religion, tout ce qui contredit la religion, tu sauras que c'est un mauvais comportement. Et quand on arrive, on essaye d'acquérir un certain niveau de piété, on sent quelque chose en nous-mêmes lorsqu'on fait quelque chose de mauvais. Et lorsqu'on fait quelque chose de bon, on ressent quelque chose de positif en nous-mêmes. Jusqu'à quel niveau est-il permis la mixité? Exemple, dans un supermarché, ou exemple, une mère qui vient chercher son enfant à l'école, dans la classe du maître, où elle limite à la mixité, existe-t-il, n'existe pas, dans quel cadre est-il permis de la femme de sortir sans mahram? Ça, c'est une question qui demande du temps. T'inquiète pas, Inch'Allah ta'ala, je vais la mettre de côté, on va te répondre. Ça demande beaucoup de temps, cette question, pour répondre. Mais quand tu vas au supermarché, c'est pas de la mixité. C'est une sorte de mixité, mais tu peux rien faire. C'est pas ça la mixité où on te dit là, y'a juice, t'as pas le droit, c'est haram. Wafik barakallah, akhi. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, akhi. Quand tu vas au supermarché, quand tu vas au restaurant, quand tu vas dans certains endroits, tu vas, je sais pas, à la banque, tu fais ton maximum pour pas être en relation avec les femmes en tant qu'homme ou avec les hommes en tant que femme, mais on peut pas dire que là tu es blâmable parce que c'est pas toi, tu n'es pas responsable de cette mixité. Et attention, également concernant la mixité, il faut faire la différence entre l'irtilat ou al-khalwa. Le irtilat, c'est comme vient nous le citer le frère, ça s'appelle la mixité des hommes, des femmes dans un périmètre réuni, dans un périmètre limité, dans un même endroit. Ça, on appelle ça la mixité. Donc ça, en cas de nécessité de darora, t'as pas le choix, tu peux rien faire. Ça sera blâmable si tu as la possibilité d'éviter, tu ne le fais pas. Mais supermarché, banque ou autre, t'as pas le choix. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, vous avez le khalwa. Le khalwa, c'est. Là, c'est pas de la mixité. C'est plus grave. C'est d'être tout seul avec une personne du genre opposé. Du genre opposé. Ça, c'est plus grave. Parce que là, il y a intimité, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est plus grave. Donc voilà, en gros. Alors pour la femme, les ulama disent en cas de nécessité, elle peut sortir. Elle sort. La femme, elle sort pas pour se promener, tout ça. Ça, c'est pas bien. Je veux dire, elle sort pas toute seule, pardon. Elle sort pas toute seule pour rien du tout, parce que même si on peut se dire, mais comment ça, nous aussi, on a le droit de vivre. Bien sûr, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est que la femme, comme les femmes doivent le savoir en elles-mêmes, elle n'est pas comme l'homme. La femme, comment vous expliquer? Du moins, comment trouver les bons mots? La femme, c'est comme un joyau que plein de pirates veulent acquérir. Alors j'espère que cette phrase, elle est bien comprise. C'est comme un joyau, et il y a plein de loups, ils le veulent ce trésor. Ils vont pas aller regarder si ce trésor, il est déjà marié, il a des frères, il a... Si ce trésor, il est déjà... Voilà. Ils ne sont pas censés savoir. Donc la femme, c'est quelque chose, bah, une des raisons pourquoi on lui dit de se couvrir. C'est ça la raison. Mais il y a certains pays, certains endroits où ça ne suffit pas de se couvrir. Quand elle va sortir, elle sera susceptible, si elle n'a pas quelqu'un de la famille ou un mahram ou quoi que ce soit, susceptible d'être... on va venir lui parler, on va venir l'agresser, on va... Et ça, c'est pas utopique, hein? Wallahu a'lam, ce que disent les savants. Barakallahu fik. Wafik Barakallah, salam alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Cher professeur, j'ai un problème avec Zoom. Ça s'est déconnecté, je n'étais pas volontaire. Je ne sais pas pourquoi ou comment ça s'est passé. J'essaie de me reconnecter, mais je veux juste préciser que ce n'est pas volontaire. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Akhi Nadir. Il n'y a pas de souci, Akhi Nadir. Hayakallah, qu'Allah te facilite, Akhi. Alors, assalamu alaikum, je vais remonter un peu plus haut. Je crois qu'il y a d'autres questions. Puis j'ai remarqué que vous, les personnes qui n'aiment pas l'islam, il est plus simple d'insulter la femme. Alors, je vais revenir un peu plus haut, j'ai pas. Pas de tawhid, arrête pas la médisance, etc. Ça fait. Alors, je vais remonter encore. Je crois que j'ai loupé plein de questions de nos étudiantes. Comme la science du dialecte, exactement. Voilà, on s'arrêtait là. Comme la science du dialecte. Ensuite, on a. Il y a des gens qui veulent guérir, mais ne font pas d'efforts dans la religion. Ne porte pas le voile, apprends pas tawhid, arrête pas la médisance, etc. Ça fait des années qu'on conseille. Ça fait des années que nous. Qu'on conseille la personne malade, mais elle s'énerve. Doit-on continuer de le conseiller? La conseiller. Oui, il faut continuer. Il faut continuer. Si la personne, c'est pas volontaire, la pauvre, elle est malade, etc. Faut continuer. Faire des invocations. Tant que ça vous nuit pas. Mashallah, khinadi wafik barakallah. Tant que ça vous nuit pas, vous, dans votre religion. Que vous avez le temps, que ça va, vous pouvez encore patienter, allez-y, faites-le. C'est un bien. Tant que ça vous est pas nuisible. Puis j'ai remarqué, alors là on a un autre. Est-ce que je vais l'avoir en. Est-ce que je vais pouvoir avoir cette question en entier? Oui. Assalamu alaikum, excusez-moi. Deux sœurs qui se rejoignent pour manger au restaurant, c'est interdit si elles sont couvertes correctement. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Je vais dire Allahu a'lam et je vais vous répondre inshallah ta'ala ou bien dans le prochain cours ou bien on dit prochain cours c'est pour faire profiter tout le monde hein. On pourrait répondre ce soir hein. Mais dans le prochain cours c'est pour faire profiter de la réponse, pour faire profiter tout le monde. Moi, pour l'instant, je dis Allahu A'lam, j'aimerais bien vérifier. J'aimerais bien vérifier. Non, je ne veux pas me précipiter. Wafikum barakallah. Alors, sachez qu'il n'y a pas de honte, hein, l'imam Ahmed, l'imam Malik, je crois que c'est une quarantaine de questions. Il a répondu à quelques questions, je crois c'est une quarantaine, il n'a pas répondu. Et il y a une personne qui a dit à l'imam Malik, qui lui a dit comment ça, moi je suis venu de telle contrée loin et j'obtiens pas quelque chose comme ça de réponse, hein. L'imam Malik lui a répondu, non seulement tu n'obtiens pas de réponse, mais tu diras, quand tu retourneras dans ta contrée, dans ton pays, tu diras l'imam Malik, il a dit Allahu a'lam, je sais pas. Donc vous voyez, des fois on oublie, les fatwas des ulama, des fois ça fait longtemps, on n'a pas révisé, on n'a pas réentendu ça, tel sujet. Donc c'est mieux d'aller vérifier que de dire n'importe quoi. C'est mieux d'aller vérifier que de dire n'importe quoi. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه Ajma'in. On vous donne rendez-vous demain, inshallah ta'ala, pour de nouveaux cours.